Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand-Besançon et Marie Blanc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Guillaume Roux. La gourmandise de ce matin est une image trouvée par l'écrivain américain Thomas Pynchon dans son roman « Vente à la criée du lot 49 » publié en 1966. Je vous la lis, elle est courte mais marquante. Il avait des yeux noirs, entourés de rides incroyablement serrées. On aurait dit un labyrinthe de laboratoire destiné à l'étude des larmes. Actrice, metteuse en scène, réalisatrice et chanteuse, notre apothicaire de l'âme rêvait adolescente de devenir une grande avocate pénale. Au lycée, elle suit un cours de théâtre en pensant à ses futures plaidoiries et découvre Shakespeare, Racine et Corneille. Après le bac, elle s'inscrit finalement en histoire, puis prend des cours de comédie au Studio Théâtre d'Asnières, puis au Conservatoire de Paris. En 97, elle devient pensionnaire à la Comédie Française. Pas du tout, me fait-elle. Non, je suis en train de dire n'importe quoi, c'est ça. Qu'est-ce que je dis ?
Je suis entrée à la Comédie Française en 2001.
Ah oui, ça n'a en effet rien à voir avec cette date. C'est totalement une erreur.
4 ans, c'est pas rien quand même.
Oui, bien sûr. En 2001. Mais elle quitte la Comédie Française pour avoir une carrière plus libre au cinéma et au théâtre. Sa beauté et son intensité illuminent les pellicules de Colline Serrault, André Téchiné, HPG, Marie-France Pizier ou encore Régis Varnier. Elle sort un premier album en 2012 avec la collaboration d'Éric Cantona pour les textes et Cali pour les mélodies et réitère l'expérience 5 ans plus tard avec Gaëtan Roussel, avec lequel elle forme le tandem Lady Sœur et leur album Accidentally Yours. En 2016, elle réalise le film de Sass en Sass sur les mères, sœurs ou épouses de détenus qui attendent les visites au parloir. Elle se décrit comme un être impatient et qui s'emporte facilement. Nous, sans la connaître, percevons une apothicaire engagée, travailleuse, intrépide et humaniste. Bonjour Rachida Brakni.
Bonjour.
Je vous présente mes excuses pour cette erreur de date.
Non, mais ce n'est pas vous, mais c'est si. Wikipédia.
Non, alors déjà, nos sources sont autres que Wikipédia, et puis nous sommes quand même une équipe de détectives privés normalement dans cette émission, et on a fait une erreur, voilà. Je vous présente mes excuses.
En fait, je ne la relève jamais, j'ai toujours laissé passer, mais les années passent, et je commence à lorgner sur ces 4 années, puis je me dis, ouais, enfin... 4 ans, c'est pas rien, donc non, c'est en 2001, en effet.
D'accord, 2001, et bien maintenant c'est noté, Wikipédia tremble. Alors, vous connaissez la première question de cette émission, je vais vous demander votre rapport à la mélancolie, Rachida Brakni, mais quand vous avez répondu à notre questionnaire, vous nous avez dit que vous ne vouliez absolument pas vous en débarrasser, que vous adoriez vous y lover.
Mais oui, je ne veux pas de remède. La mélancolie, c'est une amie, une âme sœur, une compagne, je m'en accommode très bien. Et j'ai un rapport, je crois, assez sain dans la mesure où, oui, en effet, j'aime me lover dans cette mélancolie, mais j'arrive à lui lâcher la main quand je le désire, quand j'en ai envie. Donc, c'est pas, elle ne m'attire pas à elle pour m'entraîner dans les abîmes de l'âme, pas du tout. C'est vraiment un compagnonnage heureux.
Vous n'avez jamais subi ?
Je n'ai jamais subi la mélancolie.
Parce que dans une interview, je lis, Rachida Brakni, que vous avez fait pendant un an une formation de clown, et vous dites « Mon Dieu, que j'ai été malheureuse, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai les clowns en horreur, ils m'ont toujours fait peur. »
Ah mais là, c'est pas la mélancolie, c'était de la dépression. C'était vraiment de la dépression, mais comme j'avais commencé cette formation de clown, et pour moi, ça aurait été un terrible aveu d'échec d'abandonner, mais ça a été une souffrance, mais vraiment une souffrance physique. La mélancolie, pour moi, n'est pas une souffrance, au contraire, c'est un bien-être, il y a quelque chose de très cotonneux pour moi dans la mélancolie, que ce soit à travers la littérature, à travers la musique. C'est quelque chose qui... Je serais très malheureuse, mais alors très très malheureuse, si tout d'un coup le monde était privé de tous ces mélancoliques.
Ça alors. Rachida Brakni, je sais que vous avez vécu dans divers pays, et je crois que vous habitez au Portugal en ce moment.
Oui.
Il y a cette saudade portugaise, est-ce qu'elle vous influence ou est-ce que vous étiez déjà accordé avec cette idée?
Mais oui, mais c'est, je pense que c'est par hasard peut-être que je suis à Lisbonne. Ça faisait des années que je m'y rendais chaque année. Et en effet, c'est un pays qui a une âme et qui est très très empreinte de saudade. Et la saudade, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Comme la mélancolie, on peut demander à des personnes très différentes une définition de la mélancolie. D'ailleurs, moi, je vois avec mon mari, lui, c'est quelque chose qu'il a en horreur, la mélancolie. C'est quelque chose qui, il se sent pas bien. Et je pense notamment à un film comme Mélancolia, qui est un film que j'ai adoré. Que j'ai vu deux fois, et j'ai le souvenir que j'étais toute excitée de lui faire découvrir ce film. Au bout de 20 minutes, il me dit j'arrête parce que là je plonge dans la dépression.
Donc ça le touche.
Ça le touche, et moi pas du tout. Et à Lisbonne, enfin le Portugal en général, je trouve que oui, la saudade c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. En tout cas, on devine les contours de ce que ce serait dans l'idée, un peu comme la mélancolie, mais c'est très difficile de la saisir, c'est très difficile de la définir.
Et les choses floutées, voilées vont revenir d'ailleurs dans vos remèdes, Rachida Brakni, comme on va le découvrir. J'annonce le sommaire aux auditeurs, vous allez convoquer, et je tiens à dire qu'un auditeur m'a écrit pour me dire que j'employais mal convoquer, mais regardez bien la définition littéraire de convoquer, c'est bien qu'on peut convoquer des idées. Et oui, nous sommes du côté de l'élévation ici. Bon, Rachida Brakni, vous allez convoquer Franck Capra, Sarah Bernard, Fernando Pessoa de la cuisine des gens aimés, Nick Cave, Pete Gervais de la marche musicale Soul Later, Latifa et Schacht, Gerhard Richter, Robert Capa et une religieuse au café juste après Little Sims et Cléo Sol, Selfish.
Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the sneeze though. And now I'm here, can't entertain no bummy boy, need my boy fresh in a tuxedo. Me and my new cage steady blowing. I'm a woman who can teach you a little something about class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Tell myself I rate my fellas off but never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes, they wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly.
I can't sleep.
Everything in this divine turn. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new when I know the cause. Wait, call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type. Till now, I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight. Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there. I make it clear, don't be in and out about what you hear. They say I always get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, go.
I can't sleep at night, I don't wanna fight. My best friend is I, I'm so selfish. Guess I'm meant to know.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Rachida Brakni.
You haven't met my daughter, have you? She's coming over here to visit me. That's the kind of people I associate with. Funny, isn't it? Say, dude, she thinks I'm in high society. Wait till she gets a look at me. It's going to be funny when she finds out her mother is Apple Annie.
1933, Lady for a Day, La Grande Dame d'un Jour de Frank Capra, un scénario signé par Robert Riskin d'après une nouvelle du journaliste et auteur Damon Runyon. On entend l'actrice May Robson qui joue Apple Annie, une vagabonde qui vend des pommes de terre à Times Square, raconter que sa fille, élevée dans un couvent en Espagne, s'apprête à se marier avec le fils d'un comte avec lequel elle va rendre visite à sa mère. Problème, sa mère se fait passer pour une femme de la haute société, sa fille n'est pas au courant et elle ne sait pas qu'elle est Apple Annie. Rachida Brakni, comment avez-vous découvert ce film qui est une pépite?
C'est magnifique. Hein,
magnifique.
Alors, je n'ai aucun mérite. Il y a un festival extraordinaire à Lyon que dirige Thierry Frémaux et il y a un certain nombre de films qui sont restaurés. Et lors de ce festival, on demande à des acteurs de choisir des films pour pouvoir les présenter au public. Et moi, on m'avait fait une petite sélection et c'est comme ça que j'ai découvert ce film. Et je suis tombée d'amour pour ce film. Et donc, je l'ai donc présenté durant ce festival. C'est un film que j'ai dû voir 2-3 fois, que j'essaie de faire partager à un maximum, que j'essaie de faire découvrir à mes amis. Je trouve que c'est une pépite. C'est le mélo dans toute sa splendeur. Et il y a des scènes d'humour, mais qui sont irrésistibles, parce que vous venez de raconter la scène qu'on vient d'entendre. Mais donc, le comte, avec la fille d'Annie Apple, débarque à New York. Et sauf que, en fait, Annie Apple, elle va tenter de se suicider parce qu'elle ne veut pas que sa fille découvre le poteau rose. Et en fait, il y a des espèces de petits malfrats qui parient. Et Annie Apple leur porte bonheur. Donc, il est hors de question que cette femme se suicide. Et donc, il monte tout un truc pour jouer la comédie. En fait, tout ce petit monde joue la comédie et c'est irrésistible. Mais vraiment, c'est un remède à la mélancolie.
C'est vrai, c'est une réflexion sur la comédie puisqu'ils vont tous se déguiser en gens de la haute. Enfin, juste le temps de la visite du comte avec son fils et la fille. Et puis, il faut dire quand même que May Robson, qui joue le rôle principal, a 75 ans, je crois, à peu près au moment du tournage. Ça refroidit un peu Frank Capra au début, qui se dit, je sais pas si ça va vraiment intéresser les gens, une héroïne de cet âge. Et pourtant, c'est un succès. Elle a quelque chose de Charlie Chaplin, je trouve. On pleure au bout de 3 minutes.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis la transformation est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on croit tout à fait à cette femme du peuple qui vit, enfin qui est une sorte de laissée pour compte, qui vit dans la rue, qui a vraiment, voilà, qui connaît de grandes difficultés. Et tout d'un coup, quand elle apparaît drapée dans cette robe de princesse avec ses diamants, tout d'un coup, c'est une reine, quoi. Et je trouve que c'est un film qui est très très intéressant sur l'inné, l'acquis. Enfin, je trouve que ça raconte aussi plein de choses sur la sociologie. C'est un film qui a plusieurs grille de lecture comme ça, et puis c'est toujours sous-tendu par cet humour et cette écriture de Capra qui est incroyable.
Il y a une chose assez surprenante aussi, Rachida Brakni, dans ce film, et surtout chez Capra, c'est que c'est assez amoral, puisque finalement Capra prend le parti du mensonge.
Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que tous les moyens sont bons quand il s'agit de faire triompher une certaine idée de la justice. Voilà, il se trouve que la vie fait, et on est tous confrontés à ça, et ben un mensonge, ça peut être parfois, oui, pour la bonne cause.
C'est vrai. Ça s'appelle un white lie en anglais.
Voilà, ben voilà.
En tout cas, vraiment à recommander aux auditeurs. Capra a fait un remake de son propre film en 61, Milliardaire pour un jour, avec Bette Davis et Glenn Ford. Et Jackie Chan, en 89, a fait un remake de ce film aussi.
Ah bon?
Oui.
Tiens donc.
Oui, je l'ai appris en préparant cette émission. Bon, revenons à des choses.
Je ne connais pas cette version.
Votre devise, en tout cas, Rachida Brakni, pourrait être celle de l'héroïne de Capra, puisque c'est Bella Figura en toutes circonstances. Car ajoutez-vous, comme dit un proverbe arabe, ne dis pas tes peines à autrui, l'épervier et le vautour s'abattent sur le blessé qui gémit. Bon, alors, commençons par Bella Figura, c'est faire bonne figure, donc impression.
Bien sûr.
Comment vous l'entendez-vous, Rachida Brakni?
Alors, Je dois rendre à César ce qui est à César. C'est une femme et une actrice que j'aime profondément, Françoise Fabian, et qui incarne parfaitement ce Bella Figura. Et elle l'a toujours au bout de la langue. Et cette femme, enfin voilà, c'est une actrice que j'admire beaucoup. Il m'arrive même parfois de m'identifier à elle parce qu'on a un peu la même trajectoire de vie. Et j'aime ça chez les gens. J'aime les gens qui ne se lamentent pas, qui ne s'apitoient pas sur eux-mêmes, mais qui vaille que vaille tentent de se redresser et d'avancer. Et ça, c'est presque pour moi comme un mantra, parce qu'on est tous parfois un peu faibles, entre guillemets, dans le sens où on a envie parfois aussi de succomber et de se laisser aller à une forme d'apitoiement. Et je trouve que, voilà, et Bella Figura, il y a quelque chose comme ça, même rien que de le dire, il y a quelque chose qui claque. Et c'est comme un coup de fouet, un coup de cravache qui fait que tout d'un coup, ben voilà, on se redresse, on retrousse ses manches et on avance.
Mais Rachida Brakni, vous arrive-t-il malgré tout parfois de vous autoriser la vulnérabilité ?
Mais oui.
Ah, vous nous rassurez.
Je ne suis qu'humaine. Non, mais bien sûr, évidemment. Mais oui, de toute façon, c'est un passage obligé parce que avant de pouvoir formuler ce Bella Figura, je pense qu'il faut quand même aller gratter un peu, même si c'est pas beau, même si c'est moche, faut quand même accepter d'aller gratter un tant soit peu remuer entre guillemets cette merde, pardon, mais voilà, pour pouvoir tout d'un coup la faire éclore dans ce tas de fumier.
Il y a l'idée dans ce que vous soulevez, Rachida Brakni, d'un petit peu se faire violence. Et vous avez aussi choisi la devise que Sarah Bernard, pour qui Jean Cocteau a inventé l'expression monstre sacré, la devise qu'elle faisait graver sur tous ses objets, c'est quand même. Ça viendrait d'un de ses premiers grands rôles où elle avait le trac et puis elle s'est dit non, j'y vais quand même. C'est-à-dire malgré tout.
Bien sûr.
Donc c'est se faire violence.
Puis la vie, le parcours de cette femme, d'où elle vient, une famille pauvre,
sa
juive.
Sa mère était une demi-mondaine, une courtisane.
Exactement. Et puis je pense que l'antisémitisme, ça devait être très très violent. Et puis d'aspirer à être comédienne avec... On savait pas très bien où était la frontière entre la prostitution et le parcours de cette femme est absolument inouï. Et je pense que dans sa bouche, ce quand même, c'est tout d'un coup se dire aussi, en fait, le rétroviseur, j'aime pas trop regarder longtemps dans ce rétroviseur, mais de temps en temps, c'est comme quand on conduit, il faut jeter un coup d'œil en arrière pour pouvoir avancer. Et je pense que dans l'idée du quand même, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, quand même. C'est-à-dire, voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est pas si mal, quoi, après le chemin que j'ai accompli et qui a été quand même semé d'embûches à plus d'un égard.
Donc, si je comprends bien, Rachida Brakni, c'est un quand même à prendre dans les deux sens. Il y a le ah, quand même, c'est pas si mal, et puis quand même, malgré tout, non, j'y vais, j'ai peur, et bien malgré tout, j'y vais.
Tout à fait.
Et ça vous sert au quotidien, ça, vous dites, vous dépassez vos peurs.
Oui. Ah oui, parce que il y a rien de pire que la peur. C'est quelque chose qui vous paralyse, qui vous tétanise et qui vous empêche. Et j'aime pas les choses qui. En général, je n'aime pas ce qui m'empêche. C'est peut-être par hasard, quand je faisais de l'athlétisme, j'étais une hurdleuse, on les franchit les haies, on les franchit, on les contourne pas.
Mais votre Bella Figura s'étend à plusieurs domaines et vous aimez véritablement collaborer à l'harmonie d'une compagnie, comme en témoigne votre activité anti-spleen, c'est recevoir et cuisiner pour les gens que vous aimez. Mmh. Est-ce que vous le faites souvent? Est-ce qu'il vous arrive de cuisiner seule?
Ah, toujours.
Pour vous, toute seule aussi?
Toute seule. Mais je l'ai toujours fait.
Ça, c'est une preuve d'amour envers soi.
Oui, mais je l'ai toujours fait. J'ai jamais très bien compris. Moi, j'ai un paquet de copines célibataires qui me disent que ça les déprime de cuisiner pour elles. Et alors que, je sais pas. Moi, c'est tout l'inverse, au contraire, quoi. Faut que je me fasse plaisir. Donc oui, j'aime cuisiner et je le fais même seule, même malade, même prise par le temps. J'ai besoin de ce moment-là. De toute façon, je crois qu'il y a qu'une chose qui me met d'une humeur de dog, c'est mal manger ou pas prendre le temps de manger. Vous pouvez tout me faire faire. Tout. Je peux tout dépasser. Alors là, pour le coup, Bella Figura est quand même... peuvent s'y appliquer. En revanche, si ça a trait à la cuisine, c'est pas possible.
Est-ce que, Rachida Brakni, lorsque vos amis qui viennent se régaler chez vous ne font pas Bella Figura, vous les consolez ou est-ce que ça vous agace?
Non. Après, mes amis, comme les gens que je peux côtoyer, comme en amour d'ailleurs, on prend les gens pour ce qu'ils sont. et pas les prendre pour ce qu'ils sont et passer son temps ensuite à vouloir les transformer. Non, 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 non.
La recette du malheur éternel.
Oui, et puis je trouve que c'est toujours indélicat et assez prétentieux de penser que on peut tout résoudre avec sa propre grille de lecture. Je préfère écouter, entendre l'autre et puis essayer un tant soit peu de me mettre dans son état et puis essayer d'apporter les réponses, enfin peut-être pas les réponses d'ailleurs, mais en tout cas d'essayer de poser les bonnes questions, mais toujours du point de vue de l'autre.
Donc, d'être un appui et dans la compassion.
Oui. Ah oui.
Alors j'ai lu, Rachida Brakni, que votre mère vous disait « Ma fille ne compte que sur tes avant-bras ».
Oui.
Vous ne vous reposez, vous, jamais sur les autres ?
Si, avec le temps, si, et puis et je me l'autorise maintenant, vraiment, ce qui n'était pas le cas beaucoup plus jeune. Et d'ailleurs, enfin moi, je suis très reconnaissante de cette éducation que j'ai reçue, qui va aussi encore une fois dans le sens de Bella Figura. Ma mère, sans le savoir, ou enfin non, pas sans le savoir, c'est faux ce que je dis. C'est une femme qui est une analphabète, qui n'a jamais eu la chance de faire des études, mais qui a une espèce d'intelligence incroyable, enfin une intelligence instinctive. Et du coup, sur l'éducation, sur l'indépendance, sur enfin, elle m'a apporté l'essentiel aussi sur ce qu'est être une femme, mais toujours avec des mots très simples, mais je les prends et je les reçois comme des cadeaux, parce que c'est toujours des choses qui sont essentielles. Je pense par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, ma mère est venue quelques heures après mon accouchement et elle était très heureuse de voir ce petit nouveau-né, ce petit garçon, et elle m'a regardée et elle m'a dit « C'est merveilleux, mais n'oublie jamais d'être avant tout une femme et n'oublie jamais que tu as un mari qui plus est ton amoureux. » Mais alors, je trouve que ça, c'est un cadeau extraordinaire d'entendre ça et de transmettre ça aussi à son enfant.
Une sagesse familiale.
Oui.
C'est vrai qu'on oublie que parfois la famille, c'est chouette.
Oui.
Hein. Dans un instant, Rachida Brakni, nous parlerons d'un homme parfaitement découragé, le temps d'écouter l'un de vos morceaux avec Gaëtan Roussel, Je rêve d'ailleurs, du groupe Lady Sir.
Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs féerique. Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs atmosphérique.
Oui, نضحك ونبكي مع حبابي في الجنة في الجنة فرحبا ندعرفين وسهين.
Je rêve d'ailleurs de villes constellées. Je rêve d'ailleurs de pays safaris.
Oui, نضحك ونبكي مع حبابي في الجنة في الجنة وفرح با ندعرفين وسهلين.
Je rêve d'ailleurs seul bagage, tes yeux pour le voyage, yeah, Gabi. De Médine à Constantine, de Rio à Santiago, de Ouaga à Malaga, Nicosie à Nairobi, de Mumbai au Népal, Medellin à Nashville, de Lisbonne à Vérone, Borneo, à Mexico. Je rêve d'ailleurs, je rêve d'ailleurs, d'ailleurs inconnu. Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs et d'imprévu.
Oui, نضحك ونبكي مع حبابي في الجنة في الجنة فرحبا.
Je rêve d'ailleurs, avec pour seul bagage, tes yeux pour le voyage, yeah, Gabi.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Rachida Brakni, dont on vient d'écouter un morceau avec Gaëtan Roussel, Je rêve d'ailleurs, de leur groupe Lady Sœur. J'avais promis aux auditeurs qu'on parlerait d'un homme parfaitement découragé. Il s'agit du poète portugais Fernando Pessoa et de son livre de l'intranquillité, dans lequel il vous arrive fréquemment de piocher des extraits, Rachida Brakni. Alors, le livre de l'intranquillité, ce sont des pensées et aphorismes que Pessoa a consignés sur des carnets entre 1913 et 1935. Un journal attribué à l'un de ses doubles, puisqu'il avait plein d'hétéronymes, un employé de bureau, Bernardo Soares. Je vous laisse nous en parler.
Alors déjà, en fait, vous l'avez dit, je vis au Portugal et depuis 3 ans. Et quand je me suis installée là-bas, c'était... D'ailleurs, c'est assez drôle qu'on vient d'entendre un morceau de Lady Sœur, puisque c'est Gaëtan Roussel qui me l'a offert. Quand je suis allée m'installer à Lisbonne, il m'a dit, voilà, un de mes livres préférés, c'est le livre de l'intranquillité. J'espère que tu en tireras toi aussi autant de bonheur que moi j'en tire. Et c'est vrai que c'est un livre que je ne peux pas lire d'une traite, parce que il y a quand même malgré tout une certaine noirceur. Mais j'adore comme ça me coucher sur une idée. Je partage pas tout d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Mais il y a quelque chose qui me touche chez cet homme. Vraiment comment il parle des voyages, de la pensée, et puis on se rend compte en fait bizarrement que c'est peut-être lui aussi un très grand mélancolique, c'est qu'il est capable de dire tout et son contraire. Et j'aime bien ça, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas figé, en fait. Sa pensée n'est pas figée. Et comme vous l'avez dit, c'est un journal. Donc voilà, ça doit être au gré de ses rencontres, au gré de ses voyages. Et il y a quelque chose qui est, oui, qui est organique et qui se métamorphose. Et donc, voilà, il m'arrive d'adhérer et complètement à ce qu'il me raconte. Et d'autres fois, non. Mais même quand je ne suis pas d'accord, c'est ça qui est aussi intéressant. Sinon, c'est pas drôle. C'est que ça m'amène à des réflexions, à d'autres réflexions, mais que je soupçonnais pas, en fait.
C'est très juste, Rachida Brakni, quand vous dites que ce texte de Pessoa est organique, puisque c'est vrai qu'il est très sensuel, autant d'ailleurs dans les notes un peu de lueur que les notes de désespoir total, parce qu'il y a quand même le vide intérieur, la tristesse infinie, le dégoût du monde, le désenchantement. Tout ça est dit de façon magnifique et c'est presque dangereux, puisque ça peut bercer le lecteur et entraîner dans les limbes.
Tout à fait. Et à contrario, il vous parle de la lumière. Alors, cette lumière de Lisbonne, par exemple, où il va vous parler d'un rayon de soleil qui va percer tout d'un coup ses volets et rentrer dans cette pièce nimbée d'obscurité. Et du coup, c'est ce contraste qui est intéressant.
Est-ce que vous nous avez choisi un petit passage ?
Oui, je vous ai choisi un petit passage.
On vous écoute, Rachida Brakni.
Voyager. Pour voyager, il suffit d'exister. Je vais d'un jour à l'autre, comme d'une gare à l'autre, dans le train de mon corps ou de ma destinée, penché sur les rues et les places, sur les visages et les gestes, toujours semblables, toujours différents, comme du reste le sont les paysages. Si j'imagine, je vois. Que fais-je de plus en voyageant ? Seule une extrême faiblesse de l'imagination peut justifier que l'on ait à se déplacer pour sentir. En fait, le bout du monde, comme son début lui-même, c'est notre conception du monde. C'est en nous que les paysages trouvent un paysage. C'est pourquoi si je les imagine, je les crée. Si je les crée, ils existent. S'ils existent, je les vois, tout comme je vois les autres. À quoi bon voyager ? À Madrid, à Berlin, en Perse, en Chine, à chacun des pôles, où serais-je sinon en moi-même et enfermé dans mon type et mon genre propre de sensations ? La vie est ce que nous en faisons. Les voyages, ce sont les voyageurs eux-mêmes. Ce que nous voyons n'est pas fait de ce que nous voyons, mais de ce que nous sommes.
La vie est ce que nous en faisons.
Oui, et je trouve ça très beau de parler du voyage intérieur et de le contraster avec le voyage, la distance, parcourir des kilomètres. Et j'ai, voilà, je trouve ça très très beau. Alors là, pour le coup, j'adhère.
Le livre « Dans l'intranquillité » de Fernando Pessoa, parution posthume. On a retrouvé 27 000 feuilles en vrac au fond d'un coffre en bois à sa mort. Il était méconnu de son vivant, il est mort pauvre. Et il était employé de bureau d'ailleurs, comme une de ses multiples identités à Lisbonne. Il a pratiquement rien signé de son nom, de son vivant.
Ouais.
Et son nom signifie personne. Et au passage, aux auditeurs et à vous, Rachida Brakni, je recommande « Bureau de tabac ». C'est un très joli poème de Pessoa, mais très mélancolique. Rachida Brakni, vous êtes également marquée par une phrase de l'écrivain autrichienne Ingeborg Bachmann. Le monde est terrible, mais je n'en connais pas de meilleur. Est-ce que vous vous accommodez facilement du réel ?
De plus en plus.
Donc il y a une progression quand même quand on vous entend parler.
Ah mais oui, oui.
Un apaisement.
Oui, et puis quand j'étais beaucoup plus jeune et que je rêvais d'être avocate, c'était pour changer le monde. Et en fait, en vieillissant, je me rends compte que c'est pas possible. C'est une mission perdue d'avance. Et d'ailleurs, cette phrase me fait penser aussi à une autre que j'aime beaucoup de Joseph Brodsky qui dit « Le monde ne peut vraisemblablement pas être sauvé, mais un individu peut l'être. » Et du coup, voilà, je me dis, bah oui, en effet. C'est-à-dire que plus jeune, je pensais globalité, je pensais changement radical, mais je pensais que tout était possible. Et j'ai pris conscience que ça ne l'était pas. En revanche, oui, au gré des rencontres, si une personne peut être modifiée par quelque chose que vous lui proposez ou par un échange, c'est déjà merveilleux. En fait, je suis moins gourmande. Là, pour le coup.
Et donc, choisir l'humilité plutôt que le découragement.
Ben oui.
Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Red Right Hand de Nick Cave and the Bad Seeds sur l'album Let Love In. L'artiste australien est l'un de vos remèdes, Rachida Brakni. Vous avez choisi tout Nick Cave avec 3 points d'exclamation.
Ah oui, oui, moi ça fait des années et il m'accompagne toujours. J'adore ses textes, j'adore sa musique, j'aime le personnage aussi. Et puis en concert, il est incroyable. Incroyable. D'ailleurs, je recommande ce très beau film qui s'appelle 20 000 jours sur Terre, qui a été fait sur lui, qui est extraordinaire.
Nick Cave, c'est aussi quelqu'un qui écrit, qui joue. Ouais. Il a joué pour Wenders, par exemple. Et vous avez choisi, d'ailleurs, une femme qui a formé un duo amoureux et artistique avec lui et qui est aussi pluridisciplinaire comme vous, Rachida Brakni. C'est PG Harvey. Vous avez choisi 2 albums, Let England Shake et The Hope 6 Demolition Project.
Oui. Et alors, je me l'explique pas, mais alors en fait, je suis pas très portée sur la musique engagée.
Elle est très engagée.
Et c'est pour ça. Ouais. Alors c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Mais en fait, je me suis souvent posé la question et je me suis dit, est-ce que c'est dû à la richesse musicale qui du coup contrebalance bien avec ses textes, je sais pas. En tout cas, toujours est-il que je trouve que c'est une artiste totale et qui a l'air d'être sans concession, qui a une espèce de verticalité comme ça. Elle est et alors pareil sur scène, ce petit bout de bonne femme, elle est vraiment pas très grande. Waouh, le charisme.
On va l'écouter, mais je sais, Rachida Brakni, que vous les écoutez, ces musiciens, en marchant.
Oui.
Et je sais que vous êtes une grande sportive et surtout, vous faisiez, adolescente, de l'athlétisme à haute dose, du sprint en cadette. Vous destiniez aux 400 mètres haies et vous avez eu des blessures à répétition.
Oui.
Puis il y a eu un tournage catastrophique aussi, mais oui. On n'a sans doute pas le temps de l'aborder. Aujourd'hui, vous nagez.
Oui, oui, j'adore nager. C'est un élément dans lequel je me sens vraiment bien parce que il y a pas d'à-coups, contrairement à la marche ou à la course tout simplement. Et puis j'ai un tendon d'Achille en moins, donc c'est plus simple pour moi de nager. Oui.
Sur un tournage de Régis Barnier.
Tout à fait. Mais je pourrais pas vivre sans sport. Je pense que voilà cette hormone qu'on développe quand on fait du sport, c'est quelque chose d'inouï, quoi. Enfin, aller aussi au bout de ses capacités physiques, c'est un état aussi dans lequel j'aime bien me lever aussi.
Alors on va remuer comme des folles en écoutant Pete Gervais, Let England Shake sur l'album homonyme de 2011. À la mélancolie sur France Inter avec Rachida Brakni.
I don't think when I did photography I wasn't thinking of painting. I have been told that some of my photographs maybe indicate that I'm a painter. Photography is about finding things and painting is different. It's about making something.
Quand je fais des photos, je ne crois pas penser à la peinture. On m'a dit que certaines de mes photos semblent indiquer que je suis un peintre. La photographie, c'est trouver des choses. La peinture, c'est faire quelque chose. Les mots du photographe américain Saul Leiter, interviewé par Vince Aletti à la School of Visual Arts de New York en 2013. Leiter voulait être peintre, mais en voyant l'exposition de Cartier-Bresson au MoMA en 47, il décide de devenir photographe. Rachida Brakni, c'est le premier que vous avez choisi dans une série de photographes et artistes contemporains. Je vous laisse nous parler de lui, de comment vous avez rencontré son œuvre. Je sais que vous aimez sa mélancolie.
Oui. Mais en fait, quand j'ai commencé à travailler, c'est la première photo que j'ai achetée. C'est une photo de Saul Leiter. J'avais découvert son travail à l'occasion d'un Paris Photo. J'ai tout de suite été happée par son travail, par sa couleur. En fait, j'ai découvert la couleur avant le noir et blanc, parce qu'il a fait aussi des photos en noir et blanc absolument incroyables. Et oui, il y a quelque chose qui a un peu de l'ordre de la peinture, ce flou, c'est surimpression, on a l'impression de surimpression, parce que c'est souvent derrière une vitre, avec de la buée. Et je trouve ça très mélancolique, très beau, c'est pas désespéré. Et il y a quelque chose qui me bouleverse. Et donc, je vous dis, dès que j'ai gagné assez de sous, je m'étais dit, voilà, ce sera le premier achat que je ferai. Et je pense notamment à une photo en noir et blanc que j'ai de lui. C'est une femme au premier plan qui fume une cigarette avec un regard un peu qu'elle jette par-dessus son épaule. Et en arrière-plan, on discerne en flou un homme et une femme qui discutent. Et alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, cette photo me bouleverse. Et c'est une photo que je vois tous les jours. Et tous les jours, je me raconte des histoires autour de cette photo.
Il y a une grande poésie dans
oui,
son travail.
Oui, et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, en fait, étonnamment, on pourrait penser que c'est vrai qu'un tableau... Un tableau vit et raconte différentes histoires et les histoires, elles sont multiples. Une photo, on pourrait penser que c'est quelque chose de figé, donc c'est un instant T qui s'offre à vous et puis il n'y a qu'une seule grille de lecture. Et ben, je trouve que chez Soul Letter, ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose qui vit, qui se transforme, qui se métamorphose. Enfin, c'est quelque chose d'assez troublant en fait.
Et vous le disiez, Rachida Brakni, certaines de ses photos font penser parfois à des tableaux expressionnistes. Mmh. Et il a été influencé par la peinture. Et il peut rappeler d'ailleurs certains tableaux photoréalistes d'un autre de vos artistes affectionnés. C'est l'Allemand Gerhard Richter,
oui.
Qui a aussi une aura mélancolique et qui lui part d'une photo.
Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est intéressant le chemin de ces deux artistes. Alors sur Richter, je n'aime pas du tout son travail sur la couleur, lui par exemple, hein, ou ces choses très abstraites. Moi, c'est vraiment, il y a quelques années, il y avait eu une expo à Beaubourg, si ma mémoire, ouais, c'était à Beaubourg. Et jusque là, je n'avais vu ces tableaux qu'en livre. Et déjà dans un livre, ça m'avait frappé. Mais alors de les voir, je suis admirative du travail parce que c'est, alors là aussi, il y a quelque chose de très, très, très troublant quand même. Arriver comme ça à ce flou, quelque chose de réaliste et en même temps, c'est presque des fantômes. Il y a quelque chose qui est là et qui n'est pas là. Enfin, c'est quelque chose aussi qui me touche et qui me bouleverse parce que c'est presque des gens qui viendraient de l'au-delà. Enfin, il y a un côté un peu.
D'apparition.
Ouais, tout à fait. Quelque chose de fantomatique.
Rachida Brakni, vous avez eu un autre endroit où vous avez été bouleversée, c'est un jour vous êtes entrée dans la galerie Kamel Mennour à Paris, et là vous voyez de la terre ocre au sol, des murs en décomposition, des objets posés ça et là, et avant même de connaître le nom de l'artiste, ça faisait travailler votre imaginaire, et parce qu'en fait ce que vous aimez dans l'art, c'est que ça vous ouvre toujours au monde qui vous entoure, vous avez besoin d'être nourri pour vous ouvrir à l'extérieur. Peut-être que c'est pour ça que cette mélancolie est supportable, parce que souvent la mélancolie qui terrasse, c'est celle qui est très nombriliste quand on est
tout
centré
à fait.
Sur soi.
Ouais. Alors que là, en l'occurrence, moi j'aime bien quand c'est quelque chose, oui en effet, qui en tout cas qui propose quelque chose et qui ouvre une... qui entr'ouvre une porte, qui ouvre une fenêtre sur un ailleurs. Et en fait, en règle générale, dans l'art contemporain, alors on entend souvent qu'il y a à boire et à manger dans l'art contemporain. Moi, c'est vrai que, quelle que soit l'œuvre, il faut qu'elle me raconte tout de suite quelque chose, une histoire, et que cette histoire, elle soit lisible. J'ai pas envie de prendre un petit livret et qu'on m'explique ce que l'artiste a voulu dire. En général, d'ailleurs, quand on lit ces intitulés, il y a quelque chose de très abscon et voilà, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, ne m'interpelle pas. Et chez Latifa...
C'est Latifa Echakche.
Exactement.
Et je suis désolée si j'écorche son
oui,
nom.
Moi, c'est pareil. Je crois que c'est Echakche.
E-C-H-A-K-H-C-H. Mais oui, je pense que c'est une retranscription de l'arabe, du coup, c'est compliqué de prononcer.
Oui. Et c'est donc une artiste, je crois, d'origine marocaine.
Oui.
Qui fait un travail absolument incroyable avec des choses qu'elle récupère, qu'elle retravaille, et ça fait travailler l'imaginaire, je trouve, son travail, mais aussi elle convoque les voilà, moi aussi j'utilise le mot convoquer.
C'est bien.
Elle convoque
Merci.
Les ancêtres, et il y a quelque chose qui est intergénérationnel, et puis c'est vraiment à la croisée de différentes cultures. Enfin, il y a quelque chose qui est très intéressant dans cette démarche, comme chez Kadaratia, je ne sais pas si vous connaissez aussi son travail, mais qui est aussi très intéressant, qui lui, alors pour le coup, questionne la colonisation. Et j'aime, voilà, je suis Je, par rapport à mes origines, je suis un peu dépossédée de quelque chose, dans le sens où j'ai eu une transmission, bien évidemment, de mes parents, mais qui était de l'ordre du cercle familial, mais je connais très peu de choses, finalement, du pays d'origine de mes parents. Et des artistes comme ceux-là, alors peut-être que c'est un fantasme, c'est un imaginaire, enfin, en tout cas, chez moi, ça interpelle quelque chose.
Et Rachida Brakni, il nous reste une minute pour aborder l'autobiographie du photographe et correspondant de guerre hongrois Robert Capa, Slightly Out of Focus, juste un peu flou puisque vous aimez le flou, qui réunit les textes et les photographies de Robert Capa sur la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même empreint de violence. En quoi est-ce un remède ?
Ça, c'est un remède à la mélancolie. Le parcours, la vie de cet homme. Il y a quelque chose de romanesque. Des personnalités comme lui, malheureusement, il n'en existe plus. C'est quelqu'un, quand vous lisez ce livre, oui, c'est un remède à la mélancolie. Et au regard de son parcours, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que cet homme, avant d'aller sur le front en Espagne pour couvrir la guerre, il va être dans le plus grand restaurant à boire les plus grands vins. Et trois jours après, il est dans un lit avec des punaises au fin fond de l'Espagne, ou même avant le fameux débarquement, puisque c'est lui qui a couvert le débarquement. Et on lui avait parlé de cette mission sans lui dire qu'il allait vivre quelque chose d'historique, mais voilà, il vous raconte qu'il va s'acheter un trench Burberry et que il n'a plus d'argent parce que les derniers sous qu'il avait, c'était pour acheter ce fameux trench Burberry. J'adore la vie de cet homme qui avait du mal à voyager parce qu'il était citoyen américain, mais comme il venait de Hongrie, que c'était un juif qui avait fui, enfin un bordel, un joyeux bordel.
Eh bien, on termine sur ça. On mettra toutes les références en ligne. Merci beaucoup, Rachida Brakhi, d'être venue.
Merci à vous.
Vous êtes jusqu'au 9 mars au Théâtre du Rond-Point dans la pièce « J'ai pris mon père sur les épaules » écrite par Fabrice Melchiot et mise en scène par Arnaud Meunier, qui sera aussi en tournée dans toute la France jusqu'au 24 mai. Je donne quelques dates, évidemment, j'ai égaré ma feuille, voilà, aujourd'hui décidément. Du 13 au 23 mars au Théâtre des Célestins à Lyon, le 27 et 28 mars à Bonlieu à Annecy, le 2 et 3 avril sur la scène des Théâtres de la Ville au Luxembourg, et du 9 au 11 avril à la Comédie de Saint-Étienne. Tout le reste est sur le site du Théâtre du Rond-Point. Du 9 au 25 mars prochain, vous serez la marraine de la 20e édition du Printemps des Poètes, qui aura pour thème la beauté. Ouverture le 9 au Rond-Point à 16h. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que vous avez l'enthousiasme d'un cactus au chagrin furtif. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.